les rendez-vous de Rosendo. Les rendez-vous de Rosendo, tous les dimanches à 13h, le mardi à 23h, et aujourd'hui, Rosendo, tu reçois Boris Pratt.
Bonjour à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire. Je reçois Boris Pratt, qui est un jeune coordinateur gérant de pas mal d'activités qui accompagnent pour devenir entrepreneur. Et on est aussi face à une personnalité qui anime la place de la parole à Negrepelisse. Il participe dans le cadre de la éco-construction et aussi dans l'installation de la nouvelle monnaie locale Olympe. Et donc Boris Pratt, c'est une personnalité qui est plein de facettes. Et pour pouvoir décortiquer son portrait, j'ai invité aussi à Lysiane Condi.
Bonjour. Bonjour Rosendo.
Bonjour Boris.
Bonjour.
Alors Boris, on attaque par quel côté? Et quel côté tu préfères que développe?
Je sais pas, c'est toi, parce que c'est vrai que en regardant un peu qui venait à cette émission, je me suis dit, mais, et pourquoi moi? Alors, je sais pas, qu'est-ce que t'as?
Bon, l'animation, alors. Et, nous deux, on s'est connus dans le cadre du débat, et des sujets que tu animes, que tu présentes, que tu prépares à Negrepelisse, à la médiathèque de Negrepelisse. Et qui sont des sujets, tu le synthétises comme café philo.
Oui, alors c'est vrai que c'est un peu un ovni entre guillemets ou un peu fourre-tout. C'est des soirées de rencontres et de débats, ça s'appelle Place de la Palabre. Et c'est vrai que bon, c'est assez agréable parce que j'ai un petit peu carte blanche entre guillemets avec la médiathèque de Negrepelisse. Pour mettre un peu tous les sujets sur la table, le but c'est vraiment de réfléchir, de regarder les choses un peu de travers. Alors au début ça a été pas mal de sujets sociaux, politiques, économiques. Et puis là par exemple la programmation 2014 va être un peu plus philosophique ou anthropologique, avec toute une série dont le thème d'entrée est je suis. Alors je suis mes émotions, mon corps, mes rêves, mes relations, etc., etc. Et à chaque fois, bah, c'est une rencontre. Moi, j'essaye d'apporter un peu quelques éléments et puis un peu des questionnements, et il n'y a pas d'objectif, et c'est ça qui est agréable aussi, c'est que on essaie de parler. Moi je suis assez attentif au-delà du thème de la soirée aussi à ce que chacun dans la salle puisse s'exprimer. Pour moi c'est important et ça se passe plutôt bien comme ça, et voilà, donc c'est chouette. Je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent régulièrement et puis des nouveaux aussi, et je crois qu'ils trouvent aussi un espace assez tranquille, assez calme, où il n'y a pas de résultats à obtenir, simplement être là et s'écouter et parler.
Ouais, il y a quand même, je pense que même si tu dis qu'il n'y a pas de résultats à obtenir, il y a une motivation forte, que c'est éminemment politique, éminemment militante pour changer le monde, pour apporter des nouvelles manières d'apporter quelque chose, spécialement pour l'éco-construction, pour la décroissance.
Alors oui, ça ce sont mes dada à moi, et donc effectivement je les amène un peu l'air de rien, on va dire. Mais oui, il y a une motivation. Alors changer le monde, c'est un grand mot. Déjà le questionner, quoi. Voilà, je crois que c'est beaucoup ça. Sur l'affiche des places de la Palabre, il y a écrit une petite plaisanterie, votre version de la société est en cours de mise à jour. Parce que je crois que voilà, dans cette période qu'on qualifie souvent de crise, je crois qu'une crise c'est aussi une forme de mise à jour, et donc ça réclame un temps de questionnement de ce qu'on a fait, de comment on l'a fait jusqu'ici, et puis de regarder un peu, c'est ce que je dis dans l'introduction des places de la Palabre, de regarder un peu dans les marges, parce que c'est un peu une évidence que c'est pas au milieu du fleuve, là où il y a les plus gros poissons et le courant est très fort, qu'on va trouver des nouvelles idées. C'est plutôt sur les berges, dans la vase et dans les herbes, qu'il y a des tout petits poissons qui peut-être sont intéressants à regarder. Donc c'est ça aussi.
Dans le sein des films t'a fait un portrait, donc, et je parle de l'éléphant et la forme, et les réalisateurs des films qui ont essayé de te dépeindre, il dit, je suis jaloux de Boris, parce que lui, avec sa jeunesse, il s'est posé plein de questions que moi, je ne m'ai pas encore posées. Et alors, comment ça se fait que tu t'es posé, depuis quand tu t'es posé ce genre de questions?
Je sais pas.
J'imagine que à l'adolescence.
Oui, je sais pas. C'est petit à petit, effectivement, par différentes implications associatives, voilà, de se connecter avec la réalité du monde tel qu'il est. Et du coup, effectivement, de le questionner en se disant quand même qu'il y a pas mal de choses qui vont, de mon point de vue, pas tout à fait dans le bon sens. De fait, on peut pas dire que ça fonctionne et que tout le monde soit absolument épanoui dans cette société. Au-delà des aspects matériels, où effectivement, je dis pas qu'on est dans le même état de détresse matérielle que, je sais pas, des pays qui subissent... des problèmes basiques plus importants, la faim, les tornades et je ne sais quoi. Mais une fois ça dit, on peut quand même critiquer, effectivement, critiquer au sens de chercher un peu à questionner cette société. Donc, bah écoute, ouais, moi j'ai toujours essayé. Enfin, moi il y a quelque chose d'important pour moi.
C'est la famille Prat.
Forcément, il y a des racines, oui. Racines familiales d'une certaine pratique de la politique au sens de s'impliquer dans la vie de la cité. Et
qu'est-ce que faisaient tes parents, par exemple?
Mes parents, mon père est forestier, ils sont à la retraite maintenant depuis 2 ou 3 ans. Mon père était forestier, alors bon, voilà, peut-être toute la dimension nature qui va chercher des racines par là. Je passais pas mal de temps dans la forêt quand j'étais gamin. Et ma mère travaillait justement autour du politique, alors elle côté... pas administratif, mais disons les personnes qui sont autour de d'élus pour faire avancer un certain nombre de dossiers. Donc elle travaille là-dedans. Donc ouais, voilà, ce mélange-là peut-être.
Et moi, du coup, je suis curieuse particulièrement de connaître ton parcours, ta formation, comment t'en arrives à animer Place de la Palabre, entre autres.
Alors, je sais pas si c'est ma formation qui m'amène à ça, peut-être plutôt un peu de culot. Mon parcours, j'ai fait beaucoup d'études parce que pour moi c'était facile et que ça roulait, et puis une forme de curiosité un peu de tout. Donc je suis passé par de la biologie et particulièrement les animaux parce que à un moment j'imaginais devenir éthologiste, hein, comme Diane Fossé qui passe du temps dans les forêts avec les animaux, etc. Et puis finalement, le monde de la recherche tel qu'il est vraiment, à part quelques cas particuliers comme ça, c'est peut-être pas tout à fait un univers dans lequel je me serais épanoui. Et donc j'ai bifurqué après avoir fait quelques années après le bac là-dedans. J'ai bifurqué en fait. Alors l'éthologie, c'est le comportement animal.
Oui.
Je suis passé à la psycho. Bon, le pas est pas très grand en fait. Mmh. Hein, c'est le comportement
c'est
des humains.
C'est
et ben voilà, ça m'intéressait aussi. Et puis j'ai petit à petit après avoir pris une direction qui aurait pu m'amener vers les ressources humaines ou quelque chose, mais en fait le monde des entreprises et des grandes entreprises, c'était probablement pas le mien. Donc j'ai bifurqué vers le monde associatif. Mmh. Et puis bah voilà, de la formation, enfin de l'alphabétisation, la formation, l'insertion.
Oui, voilà, tu travailles dans une pépinière d'entreprise.
Alors là, aujourd'hui, c'est professionnellement mon activité
d'accord.
principale. Enfin, quand je dis principal, c'est aussi intéressant peut-être de dire que par exemple, je coordonne et je suis gérant d'une coopérative d'activité d'entrepreneurs. Donc c'est une entreprise.
Ozon,
ça s'appelle Ozon. Mmh. C'est dans le Tarn-et-Garonne. J'ai entendu l'autre jour que Michel Brassac en parlait, puisqu'il est passé effectivement par là. Donc voilà, aujourd'hui j'anime cette structure. Ça regroupe à peu près 70 entrepreneurs sur le Tarn-et-Garonne et le Lot. C'est une cinquantaine de salariés, donc c'est voilà une entreprise un peu spéciale, on pourra en dire quelques mots. Et en même temps, toujours de cette histoire de cohérence et de recherche pour moi entre les différentes dimensions de la vie. Ben je travaille 3 jours par choix. alors j'étais à 4 jours, là ça fait quelques semaines que je suis passé à 3 jours par choix, parce que voilà, pour équilibrer, avoir le temps de faire autre chose. Alors c'est pas pour avoir un autre boulot à côté, mais c'est pour avoir le temps de rien faire peut-être.
Mm-hmm. Ah oui,
c'est important. Et
c'est
puis
très important,
et puis différents engagements et puis voilà la vie qui passe.
Et alors tes différents engagements, est-ce qu'on peut en parler maintenant peut-être? Non.
tout à l'heure juste avant, parce qu'il y a une musique à faire passer que Boris nous a concocté et on va en parler.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent que parfois nous semblent capable de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelots. Ceux qui ne rendent pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et garder le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent le bien-être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonia de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, qu'on leur crie merci d'avoir vécu. Oh, merci pour la tendresse et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Oh, 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 hey.
Voilà, donc c'était Joran qui chantait « J'aime les gens qui doutent », enfin « Les gens qui doutent », pardon, qui est une reprise d'une chanson d'Anne Sylvestre. Que je trouve belle déjà la chanson elle-même, et puis sur les paroles, cette question du doute, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait de questionner toujours, de chercher un peu autre chose. Voilà, je crois qu'il y a à douter et de conserver ce doute, parce que pour moi il y a une forme d'humilité derrière. Je pense que c'est quand même assez important.
Merci Boris. Donc je rappelle à nos auditeurs que nous sommes toujours avec Boris Pratt, qui a choisi une reprise de la chanson d'Anne Sylvestre. Et maintenant que tu parles des doutes, justement, je voulais rebondir là-dessus, parce que dans ton parcours que tu décrivais à Lisiane tout à l'heure, tu parlais qu'il y avait un moment où tu as fait la formation pour la gestion d'entreprise, et je pense que c'était 2000-2001.
Oui, par là, ouais, je sais plus.
Oui. Et du coup, tu disais, mais j'ai basculé vers le monde associatif, vers l'action citoyenne, me battre pour apporter de nouvelles choses. Mais j'apprécie beaucoup la manière comme tu animes ces débats, parce que c'est toujours avec beaucoup de lucidité, de distance en même temps, malgré que tu es impliqué, tu donnes à ton point de vue, tu offres la possibilité de doute. C'est ce que justement tu viens de dire avec la chanson présentée. Donc pour moi, l'effet que tu as réalisé un parcours dans l'administration, dans la gestion, et qu'après tu as dit non, mais finalement je suis plus dans le monde associatif, je le trouve complètement lié et accordé, parce que de toute façon, il y a dans ton activité des 3 jours par semaine, tu appliques cette formation. quand même.
Oui, 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 effectivement, là, aujourd'hui, enfin, je, au niveau professionnel, même si j'essaie de, que ça occupe pas la totalité de ma vie, c'est pas parce que ça me plaît pas, effectivement, aujourd'hui, mon travail, m'épanouit grandement, j'y trouve beaucoup de sens, et effectivement, j'arrive à peu près, mais je crois que c'est valable pour beaucoup de gens, j'ai pas vu grand monde pour avoir vu beaucoup de gens, un peu dans leur parcours professionnel, y a pas grand monde qui a un parcours linéaire, en fait, et aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive plus ou moins à faire un peu la synthèse des différentes choses que j'ai pu apprendre sur les bancs de l'université. Alors le côté scientifique, avec voilà certaines rigueurs, etc. La psycho, pas mal de choses effectivement, parce que dans mon job aujourd'hui, il y a beaucoup de relations, c'est beaucoup de questions de relations humaines et d'accompagner les personnes et de les écouter, et voilà. Et puis la partie gestion aussi, parce qu'effectivement aujourd'hui, je suis gérant d'une entreprise et à un moment, il y a des questions économiques basiques. Même si, puisqu'on fait partie de l'économie sociale et solidaire, on essaye on fait de l'économie au sens, il faut respecter un certain équilibre à la fois pour la structure ensemble coopérative et puis les projets de chaque entrepreneur, mais en même temps le profit n'est pas la question centrale. Il s'agit bien d'abord que les personnes trouvent un épanouissement dans leur vie qui passe aussi par une activité professionnelle, mais pas seulement. Donc on est par exemple très attentif, puisqu'on a affaire à des porteurs de projets qui viennent créer leurs entreprises au sein de la coopérative. On est très attentif avec eux à la question de vie professionnelle, vie personnelle, parce que c'est beaucoup de gens qui travaillent à la maison. Et travailler à la maison, à la fois ça a des avantages parce que ça donne une certaine autonomie, une certaine liberté de gestion de son emploi du temps, et en même temps ça peut être un piège aussi, parce que soit le projet envahit la vie personnelle, soit la vie personnelle grignote le projet et il se développe pas tout à fait comme il pourrait. Bref, voilà, toutes ces questions de cohérence et d'accord, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de mettre au milieu d'une question économique, gagner de l'argent, gagner sa vie. Oui, mais c'est un outil en fait, c'est pas une fin.
Mm-hmm. Comme l'argent que tu essayes avec une association, d'installer dans l'Interne-Garonne avec les sols
Olympe.
Oui. Oui. Et peut-être que je vais changer un petit peu l'ordre de mon canevas, parce que puisque tu as parlé de ça, bon, je le mets sur la table, non? Alors, les sols Olympe, comment ça fonctionne? Et j'ai assisté à ta conférence que tu avais fait dans la foire bio à Montauban. Et ça a l'air d'être déjà en route.
C'est déjà en route. Alors c'est déjà en route parce que c'est une machine qui est un peu longue à lancer. Donc ça fait quelques années effectivement qu'on met en place les fondations de ça. Là maintenant, on a fait tout le plus gros et en même temps il en reste encore. C'est-à-dire il reste à constituer le réseau des personnes. Alors personnes, que ce soit des commerçants, des producteurs ou des particuliers. Pour faire partie de ce système d'échange local. Donc sol Olympe, alors Olympe évidemment c'est Olympe de Gouges, puisque c'est une monnaie qui est basée sur le Tarn-et-Garonne, qui s'applique au territoire tarn-et-garonnais, et donc on cherchait dans la dénomination qu'est-ce qui peut faire un peu sens commun pour les personnes du Tarn-et-Garonne. C'est pas évident, le Tarn-et-Garonne est un département un peu... assez divers, on va dire, au niveau agricole, entre l'Est et l'Ouest, c'est très différent. Au début, on avait l'idée du sol chasselas, mais bon, le chasselas, c'est vraiment l'Ouest et pas tellement l'Est. Bref, après plusieurs hésitations, on est arrivé à Olympe de Gouges, qui est de Montauban, et puis qui représente quand même des valeurs à la fois féministes et aussi révolutionnaires.
Oui, universelles, oui.
Et voilà, c'est elle qui a écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ça a quand même un peu de sens par rapport à une monnaie qui se veut citoyenne et qui se veut porter. Alors c'est un Bernard Lyotard qui dit ça, qui a beaucoup travaillé, un économiste qui a travaillé sur la mise en place de l'euro, et qui parle de valeurs féminines ou masculines pour la monnaie. Et il dit qu'aujourd'hui l'euro est une monnaie très masculine, et que justement des monnaies locales amènent peut-être des valeurs plus féminines dans l'économie. Donc voilà, Olympe de Gouges a pas mal de sens.
Bon, voilà, donc on revient à l'argent, au doute. Occasionnellement qu'on s'est fait combien de temps je vais dédier à ma vie alimentaire, à mon boulot alimentaire, à mon activité, ma passion, non? Et puisqu'on parle de passion, on parle de gestion, tu connais personnellement donc une artiste, je crois, Sylvie Engelbert.
Alors, elle, je la connais pas personnellement. Je l'ai croisée en fait cet été au marché de Potier à Quélus.
Donc c'est l'artiste que tu as choisi pour en parler.
Oui, c'est l'artiste que j'ai choisi parce qu'effectivement j'ai un peu eu un peu eu un choc. Alors je suis assez sensible au travail de la terre et aux céramistes. J'ai quelques amis dans le domaine. T'avais reçu d'ailleurs Jean-Pierre Chollet que je connais aussi. Et bref, c'est vrai que quand j'ai croisé le travail de Sylvain Jalbert cet été, voilà, c'était vraiment. Je crois qu'il y avait 80 potiers sur le marché de Caylus. Et quand même son travail pour moi m'a frappé. Alors c'est un travail très brut, ça a quelque chose de voilà, des formes assez simples, c'est des couleurs de terre. Elle travaille aussi beaucoup sur les cordes, c'est une grande fan de nœuds et de cordes. Elle a fait un tour par l'Amérique du Sud, je crois que son travail s'en ressent, et puis les nœuds aussi, je crois que c'est quelque chose aussi assez présent en Amérique du Sud. Ce qu'on appelle le macramé, mais qui est pas ce à quoi on pense immédiatement nous Français.
Tu as eu l'occasion de me parler avec elle.
Oui, j'ai eu un petit peu l'occasion de parler de ça, ouais. et Coralie Seigneur, là, une autre amie céramiste, oui, qui la connaît, oui, bien.
Et que je connais aussi,
voilà, Coralie, m'a parlé un peu justement des tenants et aboutissants de son travail. Et c'est vrai que voilà, je trouve qu'il y a une grande force dans ce qu'elle fait. Et voilà, tu me demandais un peu.
Oui, donc je vais me permettre d'écrire une de ces pièces, non? Effectivement, comme Boris vient de le signaler, c'est la simplicité et un travail légré. Donc, c'est une roche qui est c'est du sable, non, qui est une accumulation de ce qu'on appelle la roche détritique. Non, c'est une espèce d'accumulation de plusieurs autres roches. Et qui, une fois qu'elle est cuite à 1200 degrés, on obtient une pâte comme la poterie que vous connaissez, mais c'est assez élevé comme température. Donc le résultat à niveau formel, c'est la simplicité, c'est des contenants, c'est comme des vases, il n'y a pas de décoration dessus, parfois il y a des cordes, et de temps en temps il y a une qui est un autre trou, comme une espèce de hanse, mais c'est très simple, et donc on dirait que ça colle beaucoup avec le désert d'Atacama où Sylvie a vécu pendant 6 ans, et qui reflète dans son œuvre la simplicité, les rapprochements à la terre. Et je crois que c'est ça qui t'a captivé, oui, parce que c'est l'amour à la terre, comme tu venais de l'expliquer, non ?
Oui, je crois qu'effectivement il y a quelque chose dans les formes. Alors, j'ai trouvé aussi, effectivement, il y a des fois des espèces de petites excroissances dans ces pots, etc., auxquelles je trouvais quelque chose d'un peu animal pour le coup aussi. Je sais pas, ça me faisait un peu penser à aux vertèbres qui dépassent dans le dos. Ça faisait un peu comme une échine.
Oui.
Voilà. Et donc il y a un certain nombre de pots comme ça. Il y a un petit détail comme ça qui structure et auquel je trouve aussi quelque chose d'animal. Elle fait aussi des cloches, c'est assez beau, avec des cordes et puis des objets. Alors je sais plus si c'est de la terre aussi qui font le je sais plus comment on dit le ballon qui teinte, quoi. Mais voilà, elle fait effectivement des grands pots, plutôt des grosses pièces.
Oui.
Et je retrouve une grande force et très évocatrice, ouais, effectivement, oui, de la terre, les animaux, enfin bon.
Les côtés alimentaires même, parce qu'on dirait que c'est tout à fait utilitaire le travail qu'elle fait. Mais quand j'ai vu cette approche, parce qu'elle ne fait pas des décorations excessives, même comme tu viens de signaler, quelques échines, quelques bouts des hanches petites qui signalent. Nous entendons à côté de nous les enfants de Boris, qui c'est Esteban et Manolo, qui ont le plaisir de nous accompagner, j'espère que ce soit réciproque, et qui sont là et qui peut-être vont se manifester s'ils veulent bien. Donc je disais que, pour revenir à Sylvie, cette céramiste dont tu as présenté son travail, et ça me fait beaucoup penser à la poterie des Banpo. Banpo, c'est la poterie la plus ancienne chinoise, et qui date de presque 7000 années avant Jésus-Christ. Et ont aussi des formes simples. S'il y a une décoration, est tout à fait minimale. Mais en même temps que je voyais et appréciais l'œuvre de Sylvie, je me disais, qu'est-ce que Boris aurait pu trouver dans cette poterie qui puisse le captiver? Parce que, à moi, je te dis franchement, c'est une poterie très basique, excessivement basique. Je me disais, où est sa patte à elle, où est sa griffe, non? Et donc, je cherchais, j'ai vu beaucoup de ces photos. Je l'ai pas trouvé, donc je veux que tu plaides en sa faveur, parce que je vois beaucoup de poteries, je vois beaucoup de potiers, la simplicité, d'accord, la couleur, les couleurs crues du gris, et mais je t'avoue, je ne le connais pas assez, et c'est, je t'avoue, je plaide coupable.
Alors je sais pas si on peut. Si on peut argumenter une expérience esthétique, parce que pour moi c'était de cet ordre, c'est-à-dire c'est voilà, à un moment tu vois quelque chose et ça te fait quelque chose. C'est je vais le dire aussi simplement que ça. Voilà, moi ça m'a fait quelque chose et je te dis au milieu d'un marché de potiers où il y a 80 voilà, tu pourrais être saturé entre guillemets.
Ah peut-être que c'est ça, c'est par contraste.
Il se trouve que en voyant son travail, voilà, moi j'ai ressenti quelque chose. Mm-hmm. Alors oui, je sais pas, les couleurs, les formes, ces petits surgissements effectivement de de formes très simples. Peut-être les cordes aussi. Enfin, je sais pas. Pour moi, il y avait quelque chose de
oui, dans les cordes, oui,
d'harmonieux,
oui,
et en même temps une force. Voilà, c'est vraiment ce mot-là qui me vient. Quelque chose de simple, mais de fort, parce que bon, effectivement, des choses simples, on peut en voir d'autres, mais je sais pas, la texture et la taille des pièces, un peu aussi la texture de surface, quoi, de sa terre. Je sais pas, quelque chose de
oui. Donc, à propos de l'esthétique, on va passer à notre langage, que c'est la cinématographie. Uh-huh. Et tu as choisi un film, que c'est 4 minutes.
4 Minuten.
Oui.
C'est un film allemand.
Oui. Donc, pour résumer l'histoire, il s'agit d'une prisonnière qui est découverte par la prof de piano de la prison et qui essaye de la pousser vers un concert. Donc, j'adore Schumann, Robert Schumann, et justement à la fin du film existent les concerts de Schumann. Mais en même temps,
à sa façon.
Oui, c'est vrai, à sa façon, oui, parce que je pense que tu as sélectionné ça pour l'entendre. Et je sais pas, Aurélien, on peut l'écouter comme ça, voilà.
Voilà, donc c'était le morceau final du film 4 minutes, qui est effectivement un morceau de Schumann à sa façon, puisqu'elle elle tord complètement et la façon de faire du piano et le morceau lui-même, voilà ce qu'on entend à des moments, c'est qu'en fait elle c'est un piano à queue et elle joue directement avec les cordes, pas par l'intermédiaire des touches, elle tape sur le piano, elle tape avec les pieds, bon voilà. Et je trouve qu'il y a une grande force de vie dans sa façon de jouer dans ce morceau, et ce mélange entre la musique classique et puis quelque chose de très brut, et puis bon, c'est le final du film, c'est un moment assez fort, ça vaut le coup, je vous le conseille.
Oui, et une chose que je voulais te commenter là-dessus, c'est que en général, quand on fait des reprises d'œuvres, soit musicales ou d'œuvres d'art pictural, et souvent dans l'art contemporain, on détruit l'œuvre ou on fait n'importe quoi pour marquer les coups et dire non, j'arrête l'académie, j'arrête cette...
Marquer la rupture,
oui. Un peu comme on fait Jimi Hendrix avec la guitare, non? Mais sauf qu'ici, je trouve que pour le film, l'acte est beaucoup plus créateur. Et dans le cas de Jimi Hendrix, casser la guitare ou casser un violon, tout ça, et c'est que de la destruction. Tandis que elle... le personnage de Jenny, je crois qu'il s'appelait,
oui.
Et elle apporte vraiment une autre musique. On construit là-dessus, parce que les percussions, la manière comme elle suit, et en tapant sur les cordes, il joue avec les claviers, les touches, là, c'est magique. C'est vraiment une véritable œuvre qui a construit à partir de Schumann. Donc pour moi, c'était très bien. J'apprécie beaucoup ces gestes.
Alors comme j'avais bien aimé le morceau, j'avais cherché un peu justement l'histoire de comment ils avaient... Enfin, qui l'avait fait, etc. Et j'avais lu en fait qu'ils avaient eu pas mal de difficultés à trouver une artiste, parce que c'est pas l'actrice évidemment qui joue, une artiste qui trouve une façon effectivement de pas jouer le morceau tel quel, et en même temps d'en donner quelque chose d'intéressant. Oui, et je crois qu'ils avaient demandé à plusieurs et qu'ils avaient pas trouvé tout de suite, quoi.
Oui.
Et c'est une artiste japonaise, son nom m'échappe, qui fait le morceau tel qu'il est, et c'est vrai que c'est assez
Shirati,
fort, je trouve.
Shirati, Kai Shirati.
Voilà, c'est ça, Kai Shirati.
Merci. Oui, je insistais là-dessus parce que souvent dans l'art, on privilégie les scandales ou les gestes abrupts comme ça pour marquer les coups. Et pour moi, c'est trop facile. Tandis que dans le cas du personnage, dans le cas de cet artiste japonais, Kai Shirati, vraiment, tu construis autre chose. C'est superbe.
Moi, j'avais envie de te poser une question. Pourquoi aimes-tu en particulier ce film?
Je sais pas, encore une fois, ça m'a, parce qu'il m'a fait quelque chose.
Je crois savoir. Vas-y,
Boris. J'y trouve une grande force. Je trouve qu'il y a une belle histoire entre les deux personnages. Je trouve qu'il y a, quelque chose dans l'histoire d'où, quelque part, elles se font, c'est une espèce de tango, de lutte entre les deux pendant tout le film. Quelque part, elles lâchent rien, ni l'une ni l'autre. Chacune là où elle est, une la prisonnière un peu déjantée quand même, et l'autre la prof de piano très très sérieuse, d'un côté limite bonne sœur, et en même temps il se passe une vraie relation entre elles deux, et quelque part chacune, enfin toutes les deux ensemble, se dépassent quoi de dans ce qu'elles sont chacune, et voilà, je trouve que le film est très joli de ce point de vue là j'aime bien aussi le côté qui mêle la grande histoire et la petite histoire, parce qu'il y a des racines de cette prof par rapport à la Seconde Guerre mondiale, de son histoire, enfin voilà, c'est un beau film.
Et c'est un film récent?
Oui, 2008.
2008, d'accord, oui. Ok.
Mais j'ai une hypothèse.
Allez.
Et je pense que tu as, Boris, tu aimes ces films parce que quelque part tu te retrouves là-dedans dans les côtés de rupture d'un système. Parce qu'il y a les systèmes carcéraires, il y a les systèmes de la prof avec Schubert, parce qu'elle est héritière de Schubert. Et du coup, il y a un diamant brut qu'il faut former. Et je me disais, peut-être que Boris a trouvé là une espèce de pépinière, un reflet de sa pépinière à être prise.
J'espère que c'est moins violent, parce qu'il y a quelques moments violents dans le film entre les deux, qui sont assez abrupts.
En revanche, il y a la partie du film qui ne m'a pas plu, c'est la fin, après les concerts, où vient les mettre les menottes, parce qu'elle est...
Parce qu'en fait, elle s'est évadée pour pouvoir faire ce concert.
Oui, mais je pense que c'est un excès de dramatisation. Et en revanche, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la liaison qui fait de Schumann. On revient à Mozart pour dire, bon, il revient en prison, on revient encore au vieux carcan de l'harmonie mozartienne. <non. rire> Bien, bien. Les livres. Alors, tu as choisi Yves Gamarra.
Navarre.
Oui. Alors, cet écrivain aussi, je me suis dit, pourquoi? J'anticipe une hypothèse. Pourquoi tu l'as choisi? Parce que lui aussi, dans son parcours, oui, Yves Navarre, ou Navarro.
Navarre, avec un E à la fin.
Avec un E à la fin, Navarro. Et lui, un peu comme toi aussi, il a fait une formation de gestion, mais il a travaillé dans la pub. Il a travaillé, il était concepteur-rédacteur, bon, qu'il a arrêté dans les années 70 parce qu'il a eu le prix Goncourt. Alors, en analysant, en voyant ton parcours, je me disais, bon, Boris aussi, avant de faire son activité militante, citoyenne, il a fait une formation scientifique parce que c'est nécessaire, et parce qu'il faut être raisonnable pour être irrationnel. Et voilà, bon, c'est une hypothèse qui... vous en clou. Mais je voulais te faire en parler.
Oui, alors Yves Navarre, peut-être pour ceux qui connaissent, la première chose qu'on... Alors le Goncourt, pour son bouquin Le Jardin d'acclimatation, son parcours dans la pub, effectivement, et puis aussi pour beaucoup, c'est un écrivain de et sur l'homosexualité.
Ah oui, bah, malheureusement, parfois, ça prend les dessus.
Voilà, ça prend le dessus. Alors, je trouve qu'il raconte de très belles histoires, et ce qui me frappe, et c'est pourquoi j'ai lu beaucoup de ses livres et pourquoi je l'ai choisi, c'est surtout son style d'écriture. Alors peut-être ça rejoint d'ailleurs ce qu'on disait sur Sylvien Jalbert. Pour moi, il y a quelque chose dans son écriture d'assez ciselé, concis et brut. C'est-à-dire que c'est des phrases très courtes, parfois des mots juste, plusieurs mots à la suite. Et je trouve, pour moi, qu'il écrit un peu comme on pense. C'est-à-dire quand on pense, on fait pas forcément des phrases avec sujet, verbe, complément, etc., etc. C'est plus des idées qui surgissent, des représentations, des concepts qui viennent à la pensée les uns après les autres. Et je trouve qu'il écrit comme ça. Alors il écrit beaucoup sur les relations humaines. Et voilà, je trouve que à la fois le sujet et son style d'écriture a aussi une grande force. Et j'ai beaucoup apprécié beaucoup de ses livres. Bon, après, effectivement, il raconte, c'est souvent des histoires difficiles. Alors là, pour le coup, son parcours en tant qu'homosexuel est probablement, et à cette époque-là, évidemment, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Je pense qu'il a eu à faire face à pas mal de difficultés d'être et d'affirmation de soi. Et de, bon, voilà.
D'ailleurs, c'est son suicide, en partie dû à la dépression, après un voyage qu'il avait fait au Canada. Mais en analysant sa première publication, je crois que c'était en 71, oui. Parce que c'est le moment où il avait arrêté la pub. Et il s'agissait des personnages de travestis. Bon, au-delà du côté de son homosexualité ou du monde où il nageait, je pense que c'était toujours les rapports entre la fiction et la réalité. Et les travestis sont une bonne image, une bonne métaphore de ce qui est la littérature. C'est-à-dire, nous travestissons, nous déguisons, nous captivons avec les mots. Et quand on arrive, je crois qu'il est mort en 94.
Oui,
et je crois, ouais. Après un parcours, et c'était assez zigzagant quand même, parce que lui, il avait été proche de Mitterrand, il avait...
Oui, certains engagements politiques à un moment, ouais.
Politique, il était sur les... Mais avant d'être célèbre quand même, j'ai lu que lui, il avait été refusé... maintes fois, c'est-à-dire qu'il collectionnait, ça me revient, il collectionnait toutes les lettres de refus de ses éditeurs. Il tapissait ses murs avec les lettres de refus. Mais c'est, bon, peut-être que quand il écrivait ses sujets, la société n'était pas prête pour les recevoir.
Probablement quelques comptes à régler, c'est sûr, quand on a fait ce chemin-là, à cette époque-là.
Il y a un livre particulièrement qui te plaît de Yves?
Là aujourd'hui, non, il y en a pas en particulier qui me revient. Non, moi je retiens toujours ces ces histoires d'être, justement, d'être au sens être humain, mais aussi de comment on devient et comment on arrive à être tout ce qu'on est. Alors évidemment, la question de l'homosexualité amène ça de manière aiguë, mais je crois que c'est valable pour tout le monde en même temps, de se découvrir, de s'accepter, et quand on s'accepte, les autres nous acceptent plus facilement, et les différentes dimensions de ce qu'on est, et aussi le fait de pas être écrasé par une des dimensions de son identité. C'est-à-dire, j'ai un métier, mais je ne suis pas que ça. Je suis homosexuel, mais je ne suis pas que ça. Et puis même, on peut pousser la question jusqu'au genre. Je suis un homme, je suis une femme. Oui, mais ça ne dit pas tout sur ce qu'on est.
Faudrait que tu fasses un sujet aussi sur la place de la parole à Negre Pellis. Hein.
Mais je crois que cette année 2014 va être assez justement autour de ces questions-là, les dimensions de l'être.
Tu ne me parlerais pas pour rien. Tu déposerais ton képi. Tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin. 6 milliards de gamins. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, plus un. Mais tu es un flic, hein. Christ, représentant de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu me demanderais si je vais bien, tu m'offrirais à déjeuner, tu me détacherais les mains, tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain, tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin, un gamin de gamin, 6 milliards de gamins, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, mais tu es un flic. Affolé de bandits, salaud vendu, de représentants de la force publique. J'étais né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien. Autant de temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler, mon peuple et mon continent. Tu distribues à la volée du pognon à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs, des peuples entiers dans la détresse. Et toi tu es flic. Soyez dans sa flexibilité de la volonté de l'autorité publique.
Les hommes que tu as vendus chez moi.
Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable. Mais tu es le bras de l'idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Oh, cette idée sans toi n'est qu'une idée. Un gamin de gamin. 6 milliards de gamins.
Plus un, plus un. Plus un, plus un. Plus un, plus un.
Mais tu es un flic. Les bandits, salauds vendus, représentants de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu ne ferais pas ton malin, ton autoritaire. Le gars qui me dit que je dois me taire. Tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'au siècle prochain. Tu me laisserais vivre ici avec ma femme et mes gamins. Un gamin de gamins, 6 milliards de gamins.
N'oubliez les injonctions d'expulsion, les rafles pendant les soupes populaires, et mes gamins que tu viens chercher à la récréation. Ne pas laisser vivre les gens en paix comme ça, mais c'est toi qu'on devrait foutre en prison, oui. Directement, sans jugement, puisque ta justice est faussée.
Chez moi, tu es à couper où? Tu es à couper chez moi. Et tu viens me demander quoi?
reconnu Zufris Maracas. C'est la chanson Un gamin. Pourquoi parce qu'elle est sympa et entraînante, parce qu'elle pose aussi la question du droit à la vie, l'autonomie, et bon voilà que c'est les migrants, le droit de vivre simplement là où on est et un peu là où on veut. Moi je les avais croisés à un rassemblement à Notre-Dame-des-Landes cet été là, et écouter leurs chansons, je trouve qu'ils ont une bonne façon de à la fois de poser des questions et en même temps que ce soit festif et agréable à écouter.
Est-ce que c'est agréable à écouter aussi quand tu rencontres des paysans ou les citoyens de Tarn-et-Garonne et tu parles de la nouvelle monnaie, Olympe des Gouges, comment réagissent?
Oui, moi je m'interrogeais un petit peu sur cette monnaie, je sais pas comment ça se présente, comment ça se met en place, ça m'intrigue. Est-ce que c'est concrètement des pièces, voilà. Est-ce que c'est aussi pour peut-être, est-ce que c'est peut-être aussi pour favoriser une démarche locavore, voilà. Ça m'interroge. J'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus.
Alors effectivement, j'en ai pas dit un mot tout à l'heure.
On est un petit peu accompagné par Manolo, qui est le deuxième enfant de Boris, qui veut participer aussi pour la.
Alors, donc la monnaie, le sol olympique.
Le sol, c'est la monnaie en fait.
C'est le nom d'une monnaie qui existe au niveau, enfin qui existe dans plusieurs endroits. Le sol, c'est le nom commun d'un certain nombre de monnaies. Et puis chaque territoire ajoute un petit nom pour localiser. C'est un des réseaux des monnaies locales. Donc effectivement, le sol olympe, c'est d'abord une monnaie locale. Je l'ai dit tout à l'heure sur le Tarn-et-Garonne. Une monnaie citoyenne, c'est-à-dire que c'est aussi clairement et en premier une volonté de se réapproprier la monnaie. Alors tout à l'heure, Rosendo disait argent, monnaie. Moi, je fais la distinction. Justement, les monnaies locales ne sont pas de l'argent au sens de quelque chose d'uniquement utilitaire. C'est-à-dire que les monnaies, c'est un outil de lien d'abord. Mmh. Alors quand tu disais locavore, oui. Effectivement, l'objectif premier, c'est se réapproprier la monnaie pour ce à quoi elle sert, c'est-à-dire nos échanges. Et pas la garder dans un coffre-fort.
Pas pour spéculer.
Faire de l'argent avec de l'argent. Mm-hmm. La monnaie, c'est un peu comme le sang dans le corps. Ça sert à irriguer et à assurer les échanges entre les différentes parties du corps.
Quoi.
Voilà, et ça doit circuler. Donc les monnaies locales ont un certain nombre de règles du jeu différentes de la monnaie nationale et européenne aujourd'hui, pour favoriser justement cette circulation et favoriser les échanges entre producteurs, commerçants et citoyens d'un territoire. Alors, il s'agit bien de monnaie complémentaire. Hein. Il s'agit pas de remplacer l'euro. On n'a pas du tout cette ambition. C'est beaucoup plus humble que ça. C'est de reparler d'économie et de monnaie entre nous.
D'accord.
C'est un peu comme les poissons dans l'eau. Si vous demandez à un poisson dans l'eau comment va l'eau, il va vous regarder avec un drôle d'air. C'est Frédéric Bosquet là qui avec nous sur le projet qui raconte cette histoire. Bah parce que le poisson, il a oublié qu'il était dans l'eau en fait. Ça fait partie de.
Oui,
comme
il a pas
nous.
De recul en fait.
Voilà, il a pas de recul. Et on est un peu aujourd'hui dans la même situation avec l'économie et la monnaie, comme si c'était la nature. C'est-à-dire comme si c'était comme ça et qu'il y avait rien à dire, rien à faire là-dessus. Les monnaies citoyennes remettent au centre un questionnement de tout ça en disant mais regardez. Il y a des règles du jeu qui sont arrivées là et qui sont pas de toute éternité et pour toute éternité.
D'accord.
Et qu'on peut questionner.
Et concrètement, ce sont quoi ? Ce sont
alors
des
concrètement,
pièces,
ça va,
c'est quoi,
ce
billets
sont des billets.
D'accord.
Donc on a fait des billets parce que c'est toujours intéressant, parce que justement le billet, c'est quelque chose de palpable.
Oui.
Donc il y a des billets, il y a aussi un outil d'échange par téléphone. Avec les portables, qui est quelque chose de très utilisé à travers le monde. Il faut savoir
donc
que
il est dessiné au jour d'aujourd'hui.
Alors
ce
aujourd'hui,
billet
ce billet il est dessiné. D'ailleurs, il est très très chouette à voir. Alors là, c'est pas radiophonique du tout, mais c'est une graphiste et une artiste toulousaine qui s'appelle Perrine qui nous a dessiné les billets. Elle a fait quelque chose de très chouette parce qu'elle a fait quelque chose d'impertinent et qui fait réfléchir. C'est-à-dire que le verso des billets, c'est des gravures d'animaux. Avec des petites phrases mi-philosophique, mi-impertinente. Et c'est vraiment très, très sympa. Et je pense que ça va du coup.
T'as pas peur qu'on ait envie de les garder pour les exposer au mieux?
Soit. C'est toujours possible. Mais je pense que c'est pas mal parce qu'effectivement, quand on a ça dans la main, et qu'on le regarde et qu'on le lit, ça questionne. Et c'est bien l'objectif des monnaies locales. Juste comme ça, en passant, pour parler de billets, regardez attentivement. Souvent, on le fait pas. Encore une fois, c'est comme l'eau pour les poissons. Regardez les billets d'euros, ce qu'il y a dessus.
Quelle valeur ça...
Non, qu'est-ce qu'il y a dessus dessiné? Voilà, qu'est-ce qu'il y a dessiné sur les billets d'euros?
Par le biais du dessin, est-ce que ça...
Il y a des ponts.
Ah, voilà. Et quelle valeur?
Et des fenêtres. Des ponts qui n'existent pas et des fenêtres qui n'existent pas. Des ponts qui ne relient aucune rive. C'est-à-dire que quand vous regardez le dessin, il n'y a rien d'un côté et de l'autre du pont. Et à travers les fenêtres, on ne voit rien non plus. Je trouve que la symbolique des euros est assez fatale. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un peu toujours l'histoire du plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire que plutôt que de s'entendre, et puis parce que c'était difficile pour savoir, on va mettre le vrai pont du Gard, le vrai pont de ceci, de tel pays, etc. Comme c'était trop compliqué, ils ont choisi d'en mettre des faux.
Oui,
des faux ponts et des fausses
des
fenêtres,
symboles, en fait.
Voilà, des symboles, mais qui ne relient rien et à travers lesquels on ne voit rien.
Alors peut-être que le débat est un peu long aujourd'hui, mais est-ce que du coup, est-ce que c'est histoire de se positionner par rapport à l'Europe aujourd'hui, enfin politiquement, et est-ce que tu fais un parallèle aussi par rapport à la monnaie virtuelle sur Internet? Dont on parle, hein, c'est le Bitcoin, c'est
ça? Le Bitcoin, oui. Alors justement, le Bitcoin est un peu le dans les monnaies complémentaires, c'est-à-dire celles qui sont pas les monnaies officielles, c'est un peu l'antithèse des monnaies citoyennes, c'est-à-dire justement, d'abord, ce n'est maîtrisé par aucun collectif de citoyens.
Et elles sont virtuelles, pour le coup.
C'est absolument non territorialisé, et pour le coup, et c'est ce qui s'est passé dernièrement, et d'ailleurs, ce qui a fait qu'on a parlé un peu plus du Bitcoin que précédemment, c'est tout à fait des monnaies sur lesquelles on peut spéculer. Alors que les monnaies locales ont mis en place des règles du jeu qui, justement, empêchent la spéculation de façon à garder l'outil d'échange. Donc, ça fait partie aujourd'hui de cet univers de choses qui effectivement questionnent un peu la monnaie, mais, et c'est très bien comme ça, il y a une grande biodiversité dans les monnaies complémentaires. Il y en a avec lesquelles on peut être d'accord ou pas. Nous, on a décidé d'en faire une sur le mode monnaie citoyenne. Et effectivement, c'est pas la même chose que le Bitcoin.
Excuse-moi, ça m'intrigue vraiment. C'est en place du coup sur le Tarn-et-Garonne. Est-ce qu'il y a déjà des gens échangent cette
monnaie? Pour l'instant, on en est juste à ce moment-là, à cette bascule-là. C'est-à-dire qu'on en est à constituer le réseau de commerçants et de producteurs.
Donc vous démarchez en fait.
Voilà.
Quelle est cette association en fait?
Alors l'association, elle s'appelle Sol Olympe.
D'accord. Okay.
Elle regroupe une petite. Aujourd'hui, il y a une trentaine d'adhérents, mais c'est la même chose. On est en train aussi de recruter entre guillemets ce qui s'appelle des solistes, c'est-à-dire les particuliers qui vont utiliser le sol.
D'accord.
Et voilà. Alors dans ce réseau, il y a aussi une dimension, et c'est une particularité des monnaies locales en France, une dimension de marquer un choix. C'est-à-dire que n'importe quel commerçant ou producteur ne pourra pas rentrer dans le réseau. Il s'agit aussi, alors c'est le slogan qu'on entend régulièrement, en fait, de votre monnaie, un bulletin de vote, il s'agit aussi de marquer une préférence. Et de dire, parmi tout ce qui existe, parmi tous les produits qui existent, nous, on préfère cela. Voilà. Il s'agit pas de dire les autres sont mauvais, il s'agit de dire nous on préfère cela.
Donc
et on fait ce choix-là.
Encourager
un certain type de production et d'échange, etc.
C'est un ensemble au final.
Voilà, c'est un ensemble. Que ce soit sur le au niveau agricole, dans les pratiques agricoles, mais aussi dans les pratiques commerciales, justement de poser des questions de toi commerçant, à qui tu achètes et comment tu achètes, à quel prix. Voilà. Et justement, c'est ça la différence entre la monnaie et l'argent. L'argent, c'est ce qu'on donne à la caissière du supermarché sans se poser de questions sur savoir d'où viennent les produits qu'elle vend, quelles sont ses conditions de travail à elle, etc., etc. On règle une dette, on lui donne son argent, on lui doit, on lui donne ce qu'on lui doit, d'accord. Et c'est fini. On se pose pas plus de questions. La monnaie locale cherche à faire le contraire.
D'accord. Bon, c'est passionnant. Rosendo nous a abandonné.
Rosendo fait du babysitting.
Fait du dessin.
Non, j'étais en train de partager quelques moments, mais je vous écoutais avec Manolo, parce que et Manolo semblait très intéressé par les dessins et aussi par les papiers ou la monnaie qui se promène par là de manière un peu plus virtuelle. Et une question que je voulais te poser, en tant que, parce que tu as développé déjà pas mal de projets en même temps, et moi aussi je me pose la question quand je roule un vélo, quand j'essaye de faire de la décroissance, et je rencontre que je suis, malgré que je ne suis pas à fond comme tu l'es, comme pas mal des gens que je croise qui sont vraiment, vraiment dans la décroissance. Mais malgré tout ça, je me dis, nous sommes qu'une petite poignée, une goutte dans un océan d'indifférence. Alors, bon, je ne déprime pas, hein, mais je me dis, comment on peut appliquer autrement et ce qu'il dit Rabino quand il dit qu'une petite goutte, malgré qu'elle soit portée par les becs d'un colibri, au moins je fais sa part. Je pense qu'une des tâches à faire, surtout pour penser à nos enfants, et c'est justement continuer à combattre politiquement. C'est-à-dire, quand je parle de politique, c'est dans le sens de la gestion d'une société. Et pouvoir se disséminer à travers notre travail, notre œuvre, notre art, notre chanson, toujours avec cet objectif d'apporter autre chose de ce que nous trouvons dans cet océan. Alors, toi, comment tu te confrontes avec cette, parfois, déception de l'indifférence dès qu'on est minoritaire?
Alors moi, j'ai arrêté d'être déçu parce que j'ai aussi arrêté d'espérer entre guillemets. C'est-à-dire que pour moi, il y a aussi une question centrale dans tout ça. Et aujourd'hui, dans notre société, c'est le rapport au temps. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez narcissique à vouloir tout de suite dans ce domaine-là aussi. C'est-à-dire qu'on va le dire pour la consommation et je ne sais quoi, mais je pense que pour les militants aussi, il y a quelque chose du tout de suite et que je trouve assez narcissique. Alors cette analyse, c'est pas la mienne, c'est Miguel Benassayag qui dit ça et j'ai trouvé ça juste. C'est-à-dire que oui, les choses bougent, mais les choses bougent doucement, elles ont toujours bougé doucement, alors soyons patients, ça n'arrivera peut-être pas de notre vivant. Et alors ?
Excuse-moi d'être coupé, j'apprécie beaucoup ce que tu dis, Boris. Est-ce que tu pourras donner à nos auditeurs la manière de te retrouver, de te rencontrer, je sais pas si tu as un téléphone,
un site. Oui, bientôt.
Alors, on a parlé beaucoup des places de la Palabre, donc ça se passe à la médiathèque à Nègrepelisse tous les premiers jeudis du mois à 20h. Je pense qu'on va passer à 20h30 peut-être l'an prochain. Bref, vous trouvez ça donc dans le programme des médiathèques de la communauté de communes Terrasse et Vallée de l'Aveyron. Pour le Sol Olympe, vous pouvez trouver plus d'infos sur sol-olympe.info. Et on organise une réunion lundi prochain à la résidence du Fort à Montauban, à 20h, s'il y en a qui veulent nous retrouver. La résidence du Fort, c'est le foyer de jeunes travailleurs là, qui est pas loin d'ici.
Rue du Fort.
Et on a parlé aussi un peu d'Ozon, et donc vous pouvez retrouver sur le site Ozon, c'est ozon-coopérer-à-l'infinitif.org, nos réunions d'infos où on explique un peu comment ça marche pour ceux qui ont des projets.
Merci beaucoup, Boris.
Merci,
Lisiane. Merci, Aurélien, à la technique.
C'était les rendez-vous de Rosendo avec Boris Pratt. Vous pourrez retrouver le podcast sur cfmradio.fr.